Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour Mathieu Van Der Poel. C'est parti Mathieu Van Der Poel. Le maillot jaune qui lance le sprint. Tadej Pogacar dans sa roue. Jonas Vingegaard juste derrière. Et l'accélération de Tadej Pogacar à la lutte avec Mathieu Van Der Poel. Victoire de Tadej Pogacar.
Et Tadej Pogacar qui va démarrer. Il se dit il faut que j'attaque vite. Est-ce que Tadej Pogacar est plus costaud que Vingegaard? Il est collé. Il est collé Vingegaard. Est-ce qu'il va réussir à attraper? Non, victoire de Tadej devant Vingegaard. Ah. On est au pied de la dernière difficulté. Se retourne Narvaez. Ah, Vingegaard qui cale vite. Déjà attention. Pogacar qui accélère. Il reste 12 km à parcourir.
Le Tour de France est plié. Tadej Pogacar qui va s'imposer dans un instant. Il est le vainqueur de cette première étape de haute montagne.
Le maillot de champion du monde est complètement déchiré. Il est sali. Mais c'est bien Tadej Pogacar, les deux bras levés, qui s'impose et qui passe la ligne à nouveau ici à Sienne.
Tadej Pogacar qui remporte donc deux Tours des Flandres.
Oh là là, il reste quelques mètres seulement avant l'arrivée. Oui, 300 mètres, on les voit au loin, ils arrivent sur cette ligne. Oh là là, ils sont... Mais ça va se jouer à la photo finish. Qui a remporté cette Amstel Gold Race? Ça va se jouer à la photo finish.
Il peut se dégourdir les jambes, Tadej Pogacar. Il a attaqué dans l'avant-dernière ascension. On savait qu'il allait porter les stockades. Il peut serrer le poing, sourire. Il va aller s'imposer pour son cinquième tour de Lombardie. Tu le disais, cinquième d'affilée. Jamais un homme n'a remporté le même monument cinq fois d'affilée. Le salut, la tête baissée de Tadej Pogacar. L'immense champion, la légende s'écrit encore un peu plus ici sur le tour de Lombardie. Victoire du champion du monde.
Tu es en train de me dire, pour certains, ce qu'on a écouté, c'est le résumé de toute une carrière. Pour lui, c'est juste une saison, en fait. Tadej Pogacar, qui vous a, tous les commentateurs vélo d'RMC, beaucoup fait monter en décibels cette année. Il est cette fois-ci parti seulement, oh le petit joueur, à 36 km de l'arrivée. Mais c'est bien lui qui s'est encore imposé en solitaire. Tadej Pogacar a remporté hier un cinquième tour de Lombardie consécutif. C'est lui jamais vu, en fait. Il égale en nombre de victoires la légende Fausto Coppi au terme d'une saison gargantuesque. Et je vais même pas avoir le temps de tout dire. Nouveau titre de champion du monde, champion d'Europe, quatrième tour de France avec quatre étapes. Le tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège. Total, 20 succès cette saison, tous de prestige à 27 ans. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, avec sa saison 2025, Pogacar est-il désormais seul le plus grand cycliste de tous les temps? Jérôme Pinault.
Oui.
Wow. Christophe Cessieux.
Non.
Pascal Dubras.
Non.
Cédric Emmons.
Oui.
Ah, c'est partagé. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp, donc 06-12-424-424. Maria Azé nous rejoint. Salut Maria.
Salut Georges, salut à tous.
Depuis la Lombardia, où tu étais hier pour le nouveau sacre historique de Poggi. Oui. Ah ouais, excuse-nous, on maîtrise pas tout l'accent non, italien beau, comme toi, beau. Jérôme. Quel était le discours chez le Slovène, son équipe et ses adversaires au terme de cette saison invraisemblable hier, Maria?
Alors déjà, on a commencé par interroger les Italiens, les Tifosi. Alors eux ne voient toujours que par Fausto Coppi, qui s'est fait égaler hier avec la cinquième victoire de Pogacar sur le Lombardie. Pas facile pour eux de trouver un mot pour décrire le Slovène.
Incredibile, spettacolare.
Dio, fantastico.
Car on ne compte plus les records du Slovène. Premier coureur à remporter le Lombardie 5 fois de suite, 5 podiums sur les 5 monuments cette année, du jamais vu dans l'histoire du cyclisme. Le bilan est excellent pour le Slovène.
Oui, ça a été une année superbe qu'on termine en gagnant le Lombardie. Il reste quelques courses à l'équipe, mais pour moi, ça y est, c'est fini. C'est la meilleure saison de ma carrière.
Ever. 20 victoires cette saison, 5 de moins que la saison dernière, mais le Slovène compte un grand tour en moins, une année parfaite, mais pas question pour Mauro Gianetti, son manager, de le comparer aux 19 monuments d'Eddy Merckx ou même aux autres légendes du cyclisme.
Lui, il est déjà un peu l'histoire contemporaine. Il a fait des choses que les autres dans le passé, ils n'ont pas fait. Il lui manque des choses à faire que les autres dans le passé, ils ont fait. C'est pas simplement un coureur cycliste très fort, c'est pas un phénomène du vélo, c'est un phénomène du sport.
Reste à Remco Evenepoel, éternel deuxième hier, à trouver les clés pour battre le Slovène en 2026.
Il y a cette accélération qui pour le moment est un peu trop dure et trop forte pour moi. C'est clair qu'on doit regarder ça, on doit travailler sur ça. On va essayer de réduire l'écart et puis j'espère d'être à son niveau l'année prochaine.
Tadej Pogacar, lui, va prendre des vacances avant de se projeter sur l'année prochaine avec un objectif, remporter les deux monuments qui manquent à son palmarès, Milan-San Remo et Paris-Roubaix, où il devra faire face à son adversaire préféré, Mathieu Van Der Poel.
Merci Maria, au terme de cette saison historique donc de Tadej Pogacar, c'était intéressant d'entendre tout le monde et même les tifosi face à l'incredible Pogacar.
Dio, qui a dit Dieu, c'est Dieu.
Dio. Jérôme, pour toi c'est déjà le plus grand de tous les temps? Oui. Devant Merckx, hein, donc. Hein.
Oui, pour moi, oui, parce que les époques déjà ne se comparent pas et les records qu'il est en train de mettre en place, il vient de battre ce record de ses victoires dans les monuments sur la même saison et il est surtout dans une lancée. Il est, comme le dit son manager général, Mauro Gianetti, il est déjà dans la légende du sport en général et il est en train d'écrire. Et c'est pas fini. Et la manière dont il gagne les courses et dont il écrase la concurrence, qui n'est pas faible. On a entendu parler de Remco Evenepoel. Alors évidemment, Christophe me dira Luis Ocaña et autres à l'époque. Mais aujourd'hui, dans ce cyclisme-là, dans ce sport-là, avec toutes les connaissances que l'on peut avoir, toute la possibilité d'avoir des scientifiques pour faire performer les garçons, ce mec-là reste encore intouchable. Et on l'a vu hier. C'est-à-dire que hier, quand il part, tout le monde se dit enfin ouf, il est parti.
Quoi. Oui, c'est vrai. Il domine tout. Il y a un renoncement hier quand il part.
Cette année, on dit il a gagné 5 courses de moins que l'année dernière. Oui, parce qu'il a pas fait le Giro. L'année dernière, il a gagné 7 étapes sur le Giro. C'est juste incroyable. Dès qu'il participe à une course, on se demande qui va faire deuxième. La preuve, le championnat d'Europe la semaine dernière, Lombardie hier, on s'est plutôt intéressé à ce qui se passe derrière plutôt que lui, qui est intouchable. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus fort encore qu'Eddy Merckx. Pourquoi? Parce que la concurrence pour moi est plus forte. Alors, il manque des courses.
Subjectif,
mais ça va venir.
Ce que
mais ça
tu
va
dis,
venir.
Jérôme, le seul argument que tu nous sers, c'est rempli de subjectivité. Je suis désolé. Comment peux-tu dire que la concurrence est plus avérée aujourd'hui que celle du temps de Merckx? Oh, c'était pas des peintres qui couraient avec Merckx. Moi, je veux dire simplement une chose. Je pense qu'il faut regarder l'objectivité.
Il y a l'hyperspécialisation quand même, Pascal. Aujourd'hui, il bat des coureurs qui se spécialisent dans chacune des courses. Et lui, il est spécialiste de toutes les courses. C'est ça qui me fait dire
j'ai
ça.
J'ai changé Pascal, simplement Merckx, hier soir, j'ai changé parce que je voulais répondre oui. Parce que j'étais pris par le côté contemporain, en fait. J'oublie Merckx parce qu'il y a l'érosion du temps. Mais juste trois chiffres. Merckx, c'est 19 monuments, c'est 5 Tours de France, c'est 3 championnats du monde. Et je te passe les 3 Paris-Roubaix, ou alors les 7 Milan-San Remo, que Pogacar n'a pas encore gagné. Juste ces chiffres-là, 625 courses gagnées, Merckx, juste ces chiffres-là, fait que, de mon point de vue, il vient de dépasser Hino, et il va bientôt, je le crois, s'il continue, dépassera Merckx. Je préfère avoir cette objectivité-là que me donnent les chiffres plutôt que aller dans ta théorie. Ta théorie, elle se tient, mais malgré tout, c'est du subjectif.
De toute façon, après, c'est pas subjectif aussi.
Aux grands champions qu'ils étaient. Non, mais les chiffres vont faire que le phénomène va prendre le pas sur Merckx très prochainement. C'est les chiffres qui nous permettront de le dire.
Il est en train de tout écrire, mais aujourd'hui c'est le GOAT parce qu'il est en train d'écrire, il est en avance surtout. Il en avance surtout parce qu'on sait comment il va gagner, on sait qu'il va démarrer.
Il n'y a que 27 ans. Hein.
Exactement. Puis dans la course, il mène un tel train d'enfer que, comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont plus envie de le suivre et quand il part, il part.
Moi, après, je crois qu'ils n'arrivent pas à le suivre.
Ouais, exactement. Il n'y a que Paris-Roubaix aujourd'hui qui doit le fâcher un peu, l'exciter.
Milan-San Remo. Ah, mais ça va venir, ça va venir.
Le problème, c'est qu'on oublie, qui était Eddy Merckx. C'est vrai que ça commence à remonter. Il y a peu. Moi, j'ai des souvenirs de petits garçons de la domination, de l'ultra domination qui exerçait Eddy Merckx sur le Tour de France. Quand tu dis qu'il affrontait pas, qu'il affrontait des coureurs qui faisaient toutes les courses, non. Un mec comme De Vlaeminck qui était le Vanderpool de Pogacar, il ne disputait que les classiques et il tenait le choc face à Merckx. Un mec comme Thévenet, il faisait les courses par étapes et il affrontait Jim Mondi, c'était pareil. Tu as quand même des noms incroyables de cette époque. Et à l'époque, le cyclisme était peut-être pas le sport numéro un, mais juste en dessous. L'importance du cyclisme était grandiose pour Eddy Merckx. Et Merckx, C'est difficile de les comparer parce qu'il est resté un peu plus longtemps dans le métier. On verra. Je pense que cette comparaison, on pourra la faire qu'au terme de leur carrière. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Et effectivement, quand tu regardes le palmarès, bah, il en manque encore à Poggi pour être l'égal du roi Eddy. Tant qu'il n'a pas gagné Paris-Roubaix, bah, il sera pas l'égal d'Eddy.
À l'époque,
tant
tu n'auras
pas gagné Milan-Sanremo,
il va chercher tout le monde à on peut pas comparer ça. C'est pas possible.
Mais si tu compares le palmarès,
à l'époque d'Eddy Merckx, le Turquino sur Milan-San Remo était un col et déjà là ils commençaient à larguer sur la Cipressa, c'était ils étaient plus que 10 aujourd'hui avec le nombre de vitesses sur les vélos, avec la préparation, avec l'ensemble des choses qui ont énormément évolué, le matos, la prépa. Milan-San Remo, c'est une course de sprinter, c'est quand même beaucoup plus difficile pour un coureur comme lui dans les années modernes.
Après, tu peux entendre l'argument aussi, Jérôme, et dire Pogacar aujourd'hui, il a plus d'éléments qui lui permettent de gagner les courses, plus d'informations que n'en avait Merckx.
Il a surtout, Jérôme, une équipe extraordinaire. Merckx avait une très bonne équipe, mais c'est
Merckx,
rien.
Il n'avait pas une bonne équipe.
Et c'est rien comparé aujourd'hui.
C'est Merckx qui a commencé à prendre les meilleurs coureurs du peloton dans son équipe.
Comme tu dis, c'était commencé.
Comme Bernard a fait.
Mais aujourd'hui, c'est établi. C'est-à-dire que l'UAE, c'est l'équipe. C'est le vainqueur de la Ligue des Champions, l'équivalent du vainqueur de la Ligue des Champions.
Ça, c'est pour ça que ça me fait sourire d'entendre Evenepoel qui dit ça.
Le travail fait par les équipiers de Poggi sur toutes les courses où c'est eux qui mettent, qui font péter tous les autres. Tu dis voilà, il a une équipe extraordinaire et Merckx effectivement a commencé lui aussi à rassembler une grande équipe, mais c'était pas du même niveau qu'il a eu aujourd'hui. Donc
non, mais moi j'ai énormément de respect pour ce qu'a fait Eddy Merckx. C'est notre dieu à tous, Eddy Merckx, mais je te dis qu'aujourd'hui, les époques ne sont pas comparables et que c'est d'autant plus remarquable ce qu'est en train de faire Tadej Pogacar. C'est ça qui, moi, me fait dire qu'aujourd'hui, après, c'est déjà le GOAT dans cette. Alors peut-être dans cette ère moderne.
Okay, c'est le greatest of all time.
Alors c'est pour ça que oui.
Le meilleur de tous les temps, Pascal.
Aujourd'hui, le vélo, j'adore ce sport, je rate rien, mais à partir de 100 bornes de l'arrivée, que ce soit une étape du Tour ou que ce soit un monument. Dès lors qu'il attaque, j'éteins la télé, quoi.
Pascal, donc ça, c'était pareil avec Merckx pour le coup.
Pascal, c'était pareil.
Pascal, dans 3 ou 4 ans, je nous le souhaite. Dans 3 ou 4 ans, je nous le souhaite. Même avant, Paul Sexa fait la même chose. On s'enflamme. On est comme des fous. Ouais, c'est parce que c'est pas un Français qui fait ça.
Vous m'avez pas laissé finir, et moi ça m'interroge. Parce que justement, si je reviens à ce que tu dis aujourd'hui, tous les coureurs sont ultra compétitifs. Le milieu du cyclisme est ultra concurrentiel, comme le sport professionnel, quel qu'il soit. Et ce garçon écrase la concurrence d'une manière qui m'interpelle.
Dans quel sens ?
Pour le moins, c'est tout.
Ah ben c'est tout. Non, mais t'as compris, il est en train de nous dire que Pogacar est dopé. Là, évidemment. Et alors, est-ce que Alcaraz fait pareil ? Est-ce que Verstappen fait pareil ? Est-ce que les footeux. Non, mais ça m'énerve. Pascal, franchement, ça m'énerve. Ce mec-là est largement au-dessus des autres.
J'en conviens, mais ça m'interpelle, c'est tout. Ça m'interpelle.
Donc, dès qu'il y a un cycliste qui domine, il est suspect. Dès qu'il y a un immense champion dans
n'importe c'est l'histoire récente du vélo qui fait que.
C'est ça qui me rend dingue. C'est que pour les restes, pour un Léon Marchand et tout, tu vas jamais imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir le moindre produit qu'il a pris.
Mais parce que Pogacar, il a des pédales et des roues, pour toi, il est coupable.
C'est un scandale. T'as réussi, Pascal, t'as réussi ce matin.
Non, franchement, je suis content, Christophe.
Il est 9h25.
Il nous avait dit ce matin, je suis pas très réveillé. C'est bon, 9h25, il est avec nous. On revient dans quelques instants après sa saison 2025. Pogacar est-il désormais le plus grand cycliste de tous les temps? On vous attend au 32-16 pour en parler sur notre WhatsApp également. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Cédric Emans, Christophe Cessieux, Jérôme Pinot se pose la question, alors qu'on est à la fin de la saison cycliste, hein, pratiquement le Tour de Lombardie, c'est souvent la quille, comme on dit. Tadej Pogacar a gagné hier sa 5e course, son 7e Tour de Lombardie consécutif. Est-il désormais le plus grand de tous les temps? C'est la question qui nous anime ce matin. Il y a beaucoup de réponses sur le WhatsApp, hein. Évidemment, beaucoup disent on va le juger à la fin de sa carrière. Beaucoup sont interpellés comme Pascal. Voilà, il faut le dire. dire. On a également beaucoup de messages comme ça. Forcément, les surdominations appellent toujours des questions.
Est-ce que tu t'es posé la question, Pascal, de tes copains de 98, champion du monde, vainqueur de la Coupe
mais
du
je
monde
je vais te donner une réponse.
Ils avaient des taux d'hématocrite que même Armstrong n'avait pas réussi à atteindre. À mais ça, tu t'es jamais posé la question là-dessus. Hein.
À la seule différence que notre sport engage une dextérité technique, c'est-à-dire qu'on est sur des appuis, un seul appui, et on taquine un ballon avec les pieds. Tu peux te charger comme tu veux, si t'as les pieds octogonaux, t'as beau te charger, t'auras toujours les pieds octogonaux.
Alors après, à ce niveau-là,
donc, prends ça avec des jeux, parce que appuyer sur des pédales, alors vous allez me dire que ça requiert une technicité, je veux bien vous entendre, il y en a qui sont meilleurs, plus à l'aise sur le vélo que d'autres, mais en priorité, il faut que tu appuies sur les pédales. Et c'est le coffre qui compte.
Il y a beaucoup de défenseurs de Pascal.
Mets la mesure,
aussi, hein.
Mets la mesure avec le football. Je suis pas naïf.
Évidemment.
Le football échappe pas à la règle.
Il est en train de nourrir la démagogie qui s'empare de toute
mais
la population.
Mais non, c'est pas la démagogie. Mais en tout domaine, Christophe, que ce soit, on n'en fait pas, on fait du sport. Mais en politique, par exemple, t'as le droit de t'interroger aussi. Donc en sport aussi, tu peux t'interroger.
Alors
t'es un mouton de panneau.
L'idée de douter en permanence, il faut douter de tout, nous dit Pascal. On peut l'entendre effectivement.
Va prendre une carte et va rejoindre le professeur Raoul, vous serez bien.
On peut se questionner. Mais t'es dur avec moi. Et quelquefois, presque à la limite de l'insulte.
Non,
c'est dommage.
Alors, respectez-vous.
J'ai le cuir épais.
Bien sûr. Non, mais voilà, on se pose la question sur la grandeur de Pogacar, évidemment, quand on a des super champions.
Il est un goat ou est-ce qu'il est dopé?
Est-ce qu'il est restons effectivement sur le plus grand de tous les temps. Mais déjà Pogacar, je pense sa grande victoire. Cédric, peut-être il y a des années on disait il faut faire du vélo comme Merckx. Aujourd'hui même les personnes qui s'intéressent pas au vélo connaissent Pogacar.
Ben oui,
ça touche ce genre de truc.
Oui, pourquoi? Parce que il me fascine, parce que il domine, parce que il est sur tous les terrains imprévisibles, en montagne, sur le plat, et puis j'aime voir ses performances.
T'as pas besoin d'être un spécialiste pour apprécier Pogacar.
Non, après j'aime pas comme les spécialistes dans le détail. Et puis pour moi, Merckx c'est lointain. Donc la comparaison elle est dure, mais j'aime le voir avec son équipe. J'aime stratégiquement voir comment il prépare ses courses, comment il attaque et quand il attaque. Et après je suis désolé, moi le voir attaquer. Et quand tout le monde cale à côté, c'est j'aime ça.
Mais non, mais voilà, il y a beaucoup de je crois que c'est Fred Weiss, tu sais, qui disait la même chose. Moi, j'ai envie de voir le moment où il va les lâcher, en fait. Ça reste.
Mais moi, je regarde le Tour de France pour ça. Hein. Ça cale partout dans la montagne, que il y a des bordures, il y a voilà. Après, je me pose pas les questions de Pascal à savoir s'il est clean, pas clean. Mais
la question qu'on peut se
moi tant qu'il est pas du moins. Pour moi, là, il n'y a pas de souci.
Ah, bah là, de toute façon, on a rien
tu
du
vois,
tout
par exemple, quand on compare Pogacar à Vingegaard, et bien Christophe ne va pas me démentir, mais tout de suite, on dit ouais, Vingegaard, il est triste, il est si. Voilà, c'est toujours le jugement sous prétexte que, il est plus calculateur, oui, puis il ne s'engage pour l'instant que sur les grands tours, et notamment le Tour de France. Mais bon, Vingegaard, il est très bon aussi. Et moi, ça m'ennuie de voir que Pogacar, il est toujours en train de le larguer. C'est parce que je voudrais un peu
Je
voudrais un peu plus de combat, quoi, si t'es mieux. C'est pour ça que je suis interpellé.
Tu sais que Vingegaard, il était au championnat d'Europe dimanche dernier, par exemple.
Ah oui,
il a fait 50 bornes, il a abandonné.
Oui. Est-ce qu'il serait pas encore dans la Drôme, d'ailleurs?
Oui, mais cela dit, alors je vais aller sur un autre terrain, ça va peut-être Christophe, parce qu'il est de ma génération. Je trouvais Merckx hyper élégant aussi. Voilà. Et je trouve Pogacar un peu moins. Voilà. Ouais. C'est tout.
Il est peut-être moins élégant, mais il est peut-être plus fun, Tadej Pogacar, dans sa façon d'aborder les courses, dans ce qu'il vend.
Merckx était
chiant. Plus de son élégant, temps, plus de son élégant aussi dans son comportement. Cette semaine, par exemple, Pogacar, qui a tout gagné et qui ne s'attaque maintenant plus qu'au monument. L'an dernier, le tour du Trentin ou le tour d'Émilie-Romagne, je ne sais plus quelle course avait eu lieu.
Italie,
Le Grand Piémont, qu'il a gagné cette année, qu'il a regagné cette année parce que l'an dernier avait été annulé.
Les trois organisateurs
est un ami à lui et l'an dernier, la course a été arrêtée à cause de la flotte, de la pluie. Il a dit je reviendrai, je te promets que je reviendrai. Cette année, il a changé son programme. Il a mis cette course-là au milieu pour revenir et l'a gagné. C'est aussi ça l'élégance.
Et
c'est aussi ça la grandeur d'un homme. et d'un champion. Et là, pour le coup, ça en est un. Hein. Il est au-dessus de ces
garçons-là. Et là, il a attaqué en descente.
Ne me parle pas de Vingegaard qui, lui, excuse-moi, quand on voit la prestation de la semaine dernière, un mois, à peine trois semaines après la Vuelta, normalement, un coureur après un grand tour, il est exceptionnel.
Bah, il fait les championnats du monde.
Il gagne la Vuelta, il fait pas le mondial, il arrive, il aurait mieux fait de rester vendre du poisson au Danemark. Il a, c'est pas un coureur, ce mec.
Tu vois, vous êtes lisible, j'aime bien tous les deux vous taquiner, toi. J'étais sûr que si je parlais de Vingegaard, vous alliez me l'exploser. C'est sûr et certain, les deux. De toute façon, vous faites la paire, Jérôme et Christophe, c'est bien connu, vous faites la paire.
Kevin nous appelle au 32-16. Salut Kevin, bienvenue dans les grandes gueules du sport. Kevin, est-ce qu'il est avec nous, Kevin?
Mais non, il est marre.
Il s'est fait larguer, là. Il s'est fait larguer.
Il est parti faire du vélo.
Je suis là.
Salut, Kevin, on t'entend.
Ouais, c'est bon. Salut à tous, bonjour à tous.
Est-ce que pour toi, Pogacar est désormais le plus grand du cyclisme de l'histoire, devant Merckx?
Non, alors je vais commencer par faire un pas de côté, parce que quand on a le débat sur le goût du cycliste, on fait toujours la comparaison Merckx-Pogacar. Moi, j'ai toujours une pensée pour un coureur qui a une carrière interrompue par un événement qui s'appelait la Seconde Guerre mondiale, qui est Gino Bartali. Et je n'ose imaginer la boucherie qu'il aurait pu faire entre 1938 et 1948, ces deux victoires dans le Tour, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, pour revenir sur Pogacar, je suis un peu d'accord avec Pascal sur le côté palmarès, même si je suis aussi d'accord avec Jérôme sur le fait qu'on peut pas comparer les époques. Pour moi, il manque quand même encore quelques cases dans le palmarès de Pogacar pour pouvoir prétendre au statut de GOAT. J'en citerai trois. Pour moi, il a toujours pas gagné la Vuelta. Et donc il faut, à mon avis, pour prétendre au GOAT, avoir gagné au moins une fois les trois grands tours.
Est-ce qu'on le jugera sur la Vuelta, Kevin? On le jugera sur la Vuelta, Kevin?
Ouais, mais sur la ligne de palmarès, quand on regarde la ligne de palmarès, ne pas avoir gagné au moins une fois chaque grand tour, pour moi, c'est ça fait tâche. Donc il faut qu'il y ait une fois, ce serait une formalité. Hein.
Mais il faut qu'il gagne les trois la même année, Kevin, pour devenir le.
Oui, là, ça serait encore statué après. Mais au moins, la gagne une fois. Après, il faut qu'il gagne cinq tours de France. Il peut pas être en dessous de Hino, de Durenne et de Merckx et d'Anquetil, donc il en manque un, à moins que Thierry Gouvenou soit un peu taquin et nous mette 200 km de contre-la-montre dans la prochaine édition pour faire monter Evenepoel. A priori, ça devrait pouvoir être jouable aussi. Et après, je dirais qu'il lui faut au moins un Paris-Roubaix ou un Milan-San Remo. Est-ce qu'il arrivera à gagner les deux? Je ne sais pas, parce qu'en effet, l'époque est différente. Si possible, les deux, mais à mon avis, au moins les deux. Et moi, je pense. Moi, aujourd'hui, si je suis conseiller de Tadej Pogacar, je valide la case cinquième Tour de France et Vuelta la saison prochaine. Et ensuite,
apparemment l'an prochain, tu vois. Donc déjà, la Vuelta.
Il a pas pris de bon conseiller.
Et ensuite, tu lui dirais dans qui les monuments, c'est ça?
Je pense que niveau UAE derrière, on a la relève avec Del Toro. Donc je pense que son sponsor peut lui foutre la paix sur le Tour de France, parce qu'ils auront un candidat pour gagner les grands tours et le Tour de France. Et donc je pense que, parce que pour moi, pour gagner Paris-Roubaix, il faut qu'il y ait un changement au niveau physique. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de masse, notamment au niveau du haut du corps.
Il a fait deuxième, sans préparation, il a juste raté un virage.
Il fait deuxième sur un Paris-Roubaix sec.
C'est vrai.
On sait qu'il y a des années où quand même le terrain est un peu
plus. Cette année, à la butte Montmartre, c'était mouillé. Il a pas loin d'être. Il était pas loin de gagner aussi. Moi, je pense que lui, les ingrédients, peu importe.
Mais il gagne pas. Moi, je pense que pour optimiser ses chances d'aller gagner un Paris-Roubaix, il faut qu'il ait. Alors, je te dis pas de prendre 10 kilos, mais de renforcer un petit peu sur le haut du corps pour avoir une meilleure assise sur les pavés et il augmenterait, à mon avis, sa cote des chances. Mais à mon avis, ça, c'est pas compatible avec le fait de performer sur les grands tours. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une bascule dans sa carrière. Et on sait que les vainqueurs de Paris-Roubaix, souvent, ont un âge un peu plus avancé aussi. La maturité physique sur Paris-Roubaix est supérieure aux autres courses.
Kevin nous a fait effectivement le plan de carrière de Tadej Pogacar.
Bravo Kevin.
On a rappelé le 32-16. Non, mais c'est intéressant. Du coup, on peut se poser la question jusqu'où peut aller Pogacar et que doit faire Pogacar maintenant. Toi, tu es d'accord avec ce que nous dit Kevin au 32-16?
Pour le changement physique, parce que je pense que le Paris-Roubaix, il l'a aujourd'hui dans les jambes. Il suffit juste que Mathieu Van Der Poel fasse ce qu'il a en ce moment, c'est-à-dire il a un peu besoin de souffler sur le vélo et qu'il soit moins bien une année, et là il gagnera. Et même
après Roubaix, les gars, cette année ça s'est bien passé pour lui, même s'il il a chuté, mais c'est aussi la roulette. Il peut tomber, il peut se faire mal. C'était souvent la question qu'on se posait sur
reste entre 5 et 7 éditions pour essayer de la gagner.
Il y a bien un moment donné, il faut gagner Paris-Roubaix,
c'est le cas, il le gagnera.
Non, mais là vous parlez tous de 5-7 saisons, mais on a beaucoup parlé cette saison aussi de Pogacar. Est-ce que mentalement il a envie de continuer? Quand on commence déjà à se poser ces questions-là après cette sa victoire sur 4ème Tour de France.
C'est le Tour qui le lasse.
Non, mais voilà, est-ce que quand même la grande interrogation, c'est pas la lassitude? C'est
quand même, il va être excité pour les monuments. Il va s'exciter pour ça.
Jour l'excite beaucoup.
Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça qu'il faut peut-être se débarrasser du 5ème tour et après,
quand je dis la routine, je vais loin, mais un Tour de France, c'est très long, il y a de la préparation, il faut supporter la pression.
Ça doit être sacrificiel, un Tour de France, Jérôme.
C'est énormément de travail, c'est quasiment 12 semaines pour 3 semaines de course, donc c'est évidemment beaucoup de temps passé loin de la maison, beaucoup de temps à faire attention à tout. Pour lui, beaucoup de temps à passer à raconter toujours les mêmes histoires.
Bah oui.
Et c'est surtout, depuis quelques années, un Tour de France qui commence très difficile et qui, finalement, lui, il le plie au bout de 10 jours. Si demain, les 15 ou 20 premiers jours sont plus difficiles, il n'aura pas la même lassitude. Bon. Là, il gagne très vite et il écrase très vite ses adversaires.
Merckx, c'est 11 grands tours remportés quand même. Hein.
Ah,
donc, il faudrait qu'il double.
Oui, mais je te dis, les chiffres pour moi ne sont pas comparables.
Christophe, je regardais hier, il a gagné 34 étapes du tour, 24 sur le Tour d'Italie. C'était n'importe quoi quand même.
C'est un truc de dingue. Jamais personne pensait qu'il serait un jour titillé. Alors, Rafael est dépassé. On n'en est pas encore là, mais.
En un mot, oui ou non, il va tout gagner?
Oui.
Christophe? Oui ou non? Pascal?
Oui.
Cédric?
Oui.
Eh ben voilà, Tadej, on ne met pas du tout la pression.